Bonjour, merci d'être là ce soir. Avant de passer la parole à Anne-Cécile Guibard qui va présenter notre invité, je voulais vous remercier d'être là et remercier aussi particulièrement André Günthert qui est très occupé et qui répond à chaque fois positivement à notre invitation. Enfin, c'est la deuxième fois qu'il intervient lors de, pas de ce séminaire, c'est la deuxième fois, Anne-Cécile. Voilà. Donc je crois qu'en comptant bien, ça fait troisième fois que tu viens à Poitiers. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup, André. On est toujours ravis de t'accueillir ici. Merci, c'est gentil. Et donc, je laisse la parole à Anne-Cécile.
Merci, Anne. Et c'est en effet la troisième fois, parce que la première fois, c'était sur une invitation de Dominique Monconduit, qu'André Günthert et Dan, bonne foi, bien sûr, qu'André Günthert est intervenu et que nous nous sommes rencontrés. Donc, merci encore à Anne. J'ai déjà remercié Dominique, je remercie encore André d'avoir accepté de venir aujourd'hui parce que donc André Günthert est quelqu'un d'important dans la culture visuelle. Aujourd'hui, il est, alors je vais lire ses titres pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Il est donc chercheur en histoire visuelle et éditeur multimédia. Maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur du laboratoire d'histoire visuelle contemporaine et fondateur de cette première équipe de recherche française consacrée aux visual studies. Ainsi, c'est une discipline qu'on enseigne outre-Atlantique depuis quelques temps. C'est vrai que c'est beaucoup grâce aux activités d'André et ses collègues que les visual studies, c'est-à-dire la culture visuelle, commence à intégrer l'université française, ce dont on n'a pas fini de le remercier. Le site culturevisuelle.org est à recommander absolument par rapport à l'actualité de l'image. Et donc je remercie vraiment André d'avoir accepté cette invitation. Petit mot à propos de la communication sur le titre. J'ai envoyé lundi matin un mail aux étudiants de la fac de lettres et langues et d'art du spectacle disant qu'il s'agirait voilà, et finalement dans l'après-midi le titre original dont on avait parlé au tout début est revenu. Il s'agira donc non pas de la représentation des pouvoirs occultes mais de la fabrique du nationalisme et l'industrialisation des images dans la deuxième partie du 19e siècle, ce dont personnellement je me réjouis. J'espère que vous aussi.
Merci beaucoup pour votre accueil. Bonsoir. Je suis content d'être là encore une fois et d'avoir une assistance aussi jeune. C'est pour moi d'autant plus intéressant. Et donc, par rapport à ces petits problèmes de calage de sujet, effectivement, on avait hésité depuis le début entre ce sujet et un autre. En fait, ce que je vais vous présenter, qui est plus iconographique, porte essentiellement sur la fin du 19e siècle. Mais si vous voulez, on peut prolonger en fait la discussion par le second sujet donc annoncé, et on pourra en discuter ensemble parce qu'au fond, la question pourrait être effectivement de se demander ce qu'il est advenu du paysage que je vais essayer de vous esquisser, alors de façon extrêmement sommaire, je m'en excuse. Ce que je vous présente n'est pas une recherche achevée, au contraire. C'est un programme de recherche. Donc c'est un sujet, si vous voulez, c'est un projet sur lequel je vais travailler encore pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de vérifications à faire. Mais en gros, voilà, je pense pouvoir essayer de vous dessiner le schéma général et puis vous le soumettre parce que voilà, tout ça est à discuter. Et donc ce schéma m'intéresse aussi parce qu'il constitue une forme de démonstration sur la façon dont aujourd'hui voilà, cette fameuse spécialité des études visuelles ou visual studies, comme vous voulez. Comment cette chose-là fonctionne et comment on prend aujourd'hui les images? Je vais essayer de vous montrer que ce n'est plus tout à fait la même approche que celle qu'on connaît bien depuis les années 70, hein, qui est notamment marquée par la sémiologie des images, c'est-à-dire en gros, on prend une image, on regarde dedans et on essaye de comprendre ses significations à partir des informations formelles. Là, au fond, vous allez voir que je m'intéresse finalement assez peu à ce qu'il y a dedans, le cadre, mais beaucoup à tout ce qu'il y a autour et à la façon dont ces images circulent. Alors, ma question de départ, et donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a évidemment quelques soucis ou questions. Hein. C'est toujours assez gênant de ne pas suivre. Hein. Donc, si j'ai des allusions trop obscures, hein, vous m'arrêtez. Donc ma question initiale porte sur tout simplement l'usage des images dans la construction de l'histoire. Qu'est-ce qu'il en est des images dans la fabrique de l'histoire? Alors voilà une première réponse. Ce que je vous montre, c'est une image. Mais c'est une image d'un texte, c'est l'illustration. C'est une illustration de l'article de Pierre Nora, le grand historien Pierre Nora, qui a dirigé il y a quelques années déjà ces volumes fameux désormais dans l'historiographie française qui s'intitule Lieux de mémoire. Et donc parmi ces lieux de mémoire, Pierre Nora, directeur de cette entreprise, s'attaque à l'un des monuments de l'historiographie française, l'Histoire de France d'Ernest Lavisse. Et donc il y a cet article dans les lieux de mémoire de Pierre Nora consacré à Lavisse. Donc l'Histoire de France de Lavisse, c'est un monument en 27 volumes qui est publié de 1901 à 1911, mais dont la préparation et la publication sous forme d'articles et de volumes séparés commencent déjà très largement à la fin du 19e siècle. Nora nous parle de Lavisse, nous décrit sa manière, qui se distingue par exemple de celle de Michelet, autre grand historien français un petit peu plus tôt dans le 19e siècle. Donc Michelet, c'est plutôt Dumas, hein, c'est la verve, c'est la faconde. Lavisse, on va être dans une histoire plus scientifique, hein, plus sérieuse, et surtout plus encyclopédique, hein, qui tient compte de beaucoup d'événements. Et pour donc illustrer sa description de l'histoire de France de Lavisse, Pierre Nora choisit de nous montrer une page de l'histoire de France et une page, vous voyez qu'elle est couverte d'annotations qui sont donc des corrections. Des corrections d'éditeurs et d'auteurs. Une des pages corrigées par Lavisse de son livre L'Histoire de France. Donc c'est un texte à double titre. Hein. Non seulement c'est du texte, c'est du livre, c'est du codex, c'est de l'édition, et alors de l'édition vraiment pas illustrée du tout. Il n'y a pas d'image dans cette page. C'est du texte au second degré, puisqu'il est redoublé par l'écriture, l'annotation manuscrite, et tout un tas de choses qu'on ne sait plus du tout faire. C'est intéressant, les auteurs faisaient ça autrefois. Hein. J'ai reçu il y a deux semaines une lettre de la revue des sciences humaines. Je les dénonce parce que donc une lettre papier. Donc déjà on reçoit plus de lettres papier. Hein. Donc un courrier papier de la revue des sciences humaines qui me dit veuillez trouver ci-joint les épreuves de votre article. Nous vous remercions de nous les renvoyer corrigées au stylo rouge, s'il vous plaît. Alors je prends le courrier, je dis ok bon. Alors, je cherche un stylo rouge sur mon bureau. Bon, mon bureau est un peu en désordre, je vous l'avoue, mais pas moyen. J'avais plus de stylo rouge. C'est extraordinaire, un stylo pour un prof. Hein. Le stylo rouge, c'est le stylo de la correction. Je ne sais pas depuis quand je n'ai plus de stylo rouge, mais effectivement, je ne corrige plus de copies au stylo rouge. Je ne reçois plus de copies à corriger. Je ne sais pas comment je fais, mais enfin, je ne les corrige pas, je les note maintenant. Mais j'avais plus de stylo rouge. Bon. Donc, premier handicap. Après, bon, enfin bref, je ne rentre pas dans le détail. Non, mais vous voyez, voilà, c'est une pratique, on va dire, obsolète. Pas d'image. Donc, si j'en crois Pierre Nora, hein, je vous fournis une espèce de symptôme, comme ça, de résumé. L'histoire n'a pas besoin d'image. Bon, elle a besoin de livres, elle a besoin d'éditions, elle a besoin de textes, elle a besoin de textes corrigés avec soin, mais pas d'image. Donc, ça, c'est l'avis de Pierre Nora. Maintenant, alors, est-ce qu'il. Je vais chercher un autre document et. Alors, vous voyez, je ne vais jamais chercher très loin. Un vrai chercheur en études visuelles ne doit jamais aller chercher trop loin ses documents. Et donc, j'ai emprunté à mon fils son manuel d'histoire-géographie, dont voici la couverture. Alors, je ne vais pas vous le faire passer. Vous devez avoir des souvenirs encore assez précis de ceux qui vous ont servi il y a quelques années. Cette couverture est très intéressante. Et effectivement très typique. Puisque vous voyez qu'elle est divisée en deux parties, une partie histoire et une partie géographie. Donc je ne vais pas m'intéresser à la partie géographie, quoiqu'il y aurait beaucoup à commenter. On gardera peut-être ça pour la discussion. Je vais m'occuper de la partie histoire. Et je constate que, contrairement à l'intuition, si vous voulez, qu'on pouvait déduire de l'approche de Pierre Nora, ce qu'on voit ici est non seulement une image, mais une image au carré, puisque vous reconnaissez donc une photographie, mais une photographie d'une statue. Et vous comprenez bien que c'est la statue qui connote l'histoire. Alors, qui est ce personnage? Donc ça, c'est évidemment la question piège que j'ai posée à mon fils. Il a été totalement incapable de répondre. Il faut laisser les jeunes répondre. Il avait dit. Oui, c'est bravo, c'est Jean Moulin, reconnaissable à son chapeau. Donc c'est Jean Moulin dans la version statuaire qui est exposée à Lyon, hein, et qui est donc bien sûr un hommage au grand résistant de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été donc choisi, c'est très intéressant, hein, comme personnage phare de ce manuel et donc du programme d'histoire de l'année 3e. C'est le programme, hein, en cours. Mais donc je note qu'il y a une indication très contradictoire avec celle que je viens de vous donner à partir donc de l'histoire scientifique. Hein, voilà, l'histoire scientifique, elle s'écrit avec des textes. Et au fond, on a l'impression que les savants, les historiens de catégorie de compétition, hein, n'ont pas besoin d'images et voilà, ne s'en préoccupent pas. Il raconte des histoires, il raconte des récits qui n'ont pas besoin d'images. Mais il y a, à l'évidence, une autre façon d'aborder l'histoire, et celle-là, non seulement elle a besoin d'images, mais elle se construit avec des images au carré, hein, avec des redoublements iconographiques, qui sont justement des significations de ce qu'est l'histoire, ou des renvois effectivement sémiologiques, hein, à la matière, disons, de l'histoire. Donc, pour essayer de répondre de façon un peu plus élevée, donc nous avons donc une contradiction. Alors, pour essayer maintenant d'avancer et de répondre à ma question, quel est l'usage des images en histoire, il faut d'abord commencer par essayer de répondre à la question: qu'est-ce que l'histoire ? Qui est une question qui a l'air comme ça très compliquée, mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça, l'histoire. Donc là, je compare une page issue justement de ce manuel, hein, qui représente donc une célèbre photographie de Joey Rosenthal de la bataille d'Iwo Jima et surtout du lever de drapeau. Et donc je la rapporte à son occurrence éditoriale initiale, à sa première publication dans le New York Times en 1944. Donc vous voyez qu'une photographie qui est à l'origine on va dire, une photographie d'actualité. Mais je reviendrai évidemment sur cette notion qui est un petit peu rapide, est au fond extraite et devient un matériau d'histoire par justement sa translation et sa mise en exergue dans le cadre du récit historique. Donc au fond, de façon assez simple, je vous propose de dire que l'histoire, c'est pour l'essentiel les événements sacralisés d'une communauté, d'un groupe, en l'occurrence d'une nation, mais ça peut être des groupes plus petits ou plus grands. Et donc chaque communauté, chaque groupe choisit une série d'événements, et l'histoire sacralise des événements. La géographie sacralise d'autres choses. L'histoire sacralise des événements, une sélection d'événements, un best-of d'événements, si vous voulez. Alors, cette façon de faire est une vieille tradition qui existe évidemment depuis l'Antiquité, et on considère en général que l'histoire est ce qu'on appelle une science auxiliaire du politique. Disons, prenons l'exemple canonique, la guerre des Gaules de César est un livre, et le premier livre d'histoire de la, pas de la France, mais donc de ses ancêtres, de nos ancêtres, les Gaulois. Ce sont les livres d'histoire qui le disent. Normalement, nous devrions adhérer à cette idée. Et évidemment, la guerre des Gaules est un ouvrage stratégique pour Jules César, qui lui permet d'asseoir son pouvoir à Rome. Donc voilà, on a ici un exemple tout à fait typique du fait que la construction de l'histoire sert, en général, les desseins du politique. Alors, ça se passe comme ça très largement en France, disons, dans la période moderne. Cet usage du récit historique suppose deux types de construction de récits. Le premier que je vous montre ici, et qui est donc ce qui, dans le présent, mérite d'être retenu pour passer à la postérité. Donc voilà un événement, ou plus exactement, vous le voyez bien, sa figuration, qui est sélectionnée pour faire partie du best-of. Et donc j'insiste évidemment sur le fait que voilà, l'événement connoté par cette image, qui est donc la victoire des États-Unis sur le Japon, est bel et bien signifié par une image, par une image emblématique. Et puis, le deuxième type de construction de récit, mais c'est pas différent, enfin c'est la même chose, sauf qu'on l'applique au passé. C'est de la même façon désigner ce qui, dans le passé, doit être retenu pour expliquer ou justifier le présent. Et donc là, je prends de superbes assiettes de la manufacture de Sarreguemines de la fin du XIXe siècle, qui représente donc un de nos personnages historiques favoris, bien sûr, vous avez tous reconnu Jeanne d'Arc, dans des reproductions de tableaux, de ce qu'on appelle de la peinture d'histoire. Vous voulez qu'on joue aux devinettes? Oui, non? Donc là, le premier est ce qu'on appelle un cadre photographique. Donc ce n'est pas exactement une assiette, ce serait plutôt un plat. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un plat pour manger, c'est un plat pour accrocher au mur. C'est un objet décoratif, c'est un objet iconographique qui existe encore, dont les ancêtres étaient fabriqués par la manufacture de Sèvres au début du XIXe siècle. Donc voilà, le principe d'illustrer une assiette qui, de ce fait, perd sa qualité usuelle pour devenir un objet décoratif. Et donc, on va accrocher au mur comme un tableau, sauf que c'est beaucoup moins cher qu'un tableau. Et puis, comme c'est quand même très résistant, on peut l'offrir. Vous voyez, c'est un cadeau, c'est sympathique. C'est un bel objet iconographique, ça. Donc, le cadre photographique, ce qu'on appelle un cadre photographique, c'est la reproduction de la Jeanne d'Arc d'Ingres. Et l'autre est une Jeanne d'Arc un peu moins connue, mais d'un peintre d'histoire très intéressant et dont vous allez voir d'autres images, dans un instant, qui s'appelle Le Neveu et qui est un peintre d'histoire normand. Donc voilà, les deux formes principales. Donc vous voyez, je vous propose de décrire très simplement l'histoire comme un tri, hein, une sélection d'événements qui fait sens, d'événements qui font sens, pardon, et qui font et dont la caractéristique est au fond d'être élevé pour être pour manifester leur caractère historique, d'être élevé à la manifestation publique. Un événement historique, c'est un événement historique pour une communauté. Donc on va non seulement faire cet exercice, hein, de sélection, de best-of d'événements, mais ces événements, on va les montrer à tout le monde. Et on va leur donner une forme qui n'est pas seulement une image, mais qui est une image publique. Une image que tout le monde peut voir, ça serait le minimum. Et puis, disons, dans un sens peut-être plus large et plus politique, une image qu'on appellerait aujourd'hui une image appropriable. Donc, effectivement, je vous montre ici une statue de Marc Aurèle qu'on peut voir encore aujourd'hui à Rome. Et on peut considérer que le monument, donc la statue, est effectivement l'ancêtre de toutes les formes de représentation historique, parce que, en effet, quand on veut, enfin, il y a d'autres ancêtres, on pourrait discuter, hein, disons les monnaies, par exemple, hein, sont effectivement dans l'Antiquité un exemple encore, probablement encore plus ancien. Mais la statue, ça existe depuis très longtemps, et donc voilà, nos ancêtres, les Grecs et les Romains, utilisaient depuis fort longtemps ce principe de monumentaliser un événement, de le rendre donc voilà, identifiable, public et célèbre. Hein, si vous désignez un événement de cette façon-là, vous le rendez, vous en faites quelque chose de notoire, puisque c'est un objet public, donc tout le monde le connaît. Il y en a qu'un comme ça, ou il y en a quelques-uns, mais pas, voilà, hein, c'est pas tous les événements qui sont distingués de cette façon. Donc, cette exposition de l'événement produit un effet de notoriété, de célébrité. Donc, l'histoire, c'est aussi une façon, si vous voulez, avant la lettre, de médiatiser, hein, des événements et de les médiatiser par l'image. Alors, je n'insiste pas sur ces éléments que je vous décrit de façon extrêmement sommaire, mais je peux vous renvoyer au très bel ouvrage de Louis Marin qui s'intitule Le portrait du roi et qui décrit beaucoup plus en détail ses fonctionnements sur un mode de philosophie de l'histoire, qui est un livre qui s'intéresse notamment à Louis XIV, hein, qui va être un grand utilisateur, hein, de cette monumentalité. Donc maintenant que j'ai en quelque sorte essayé de poser, disons, mes définitions initiales, je vous propose donc de revenir à cet objet qui est le manuel, hein, qui constitue pour moi, hein, donc un objet intéressant, sauf que je vais revenir évidemment un peu en arrière et je vais vous prendre donc en fait les ancêtres des manuels scolaires illustrés, les premiers exemples de manuels scolaires illustrés. Je vous en ai rapporté deux. Ils sont pas très grands, hein. Mais je vais les faire passer. Ils sont relativement costauds, hein. Donc ça date de la fin du 19e siècle, hein, 1894 pour celui-ci, le vert, et 1928 pour l'histoire de France de Aymard. Donc voilà. On va en faire passer un là. Alors, donc ce sont des petits objets. Ce sont des objets, si vous voulez, qui, évidemment, à nos yeux, à nous d'aujourd'hui, où on est saturé d'images en couleur, en grand format, sur des écrans de diagonale, merci. Voilà, donc ces objets nous paraissent extrêmement modestes, des images petites en noir et blanc, qui ne sont pas des reproductions photographiques, mais des gravures, donc des dessins. Et pourtant, il s'agit effectivement, et ce qui est intéressant, c'est la densité graphique de ces objets, puisqu'on est en réalité avec ces outils qui sont donc des manuels scolaires. Et si vous voulez, les premiers manuels scolaires illustrés de l'école de la Troisième République, donc pas n'importe quelle école, cette fameuse école des hussards noirs, celle qui va colporter le nationalisme français et la tradition républicaine, la nouvelle éthique républicaine dans tous les petits pays de France. Et donc cette évangélisation pédagogique, elle se fait avec ces outils qui sont donc des outils porteurs d'images. Et je le répète, ce que vous pouvez constater par un simple feuilletage de ces objets qui ont l'air modestes, mais en réalité sont extrêmement fournis en illustration, ont une composante graphique très dense. Et donc il s'agit en réalité d'outils pour l'époque évidemment très modernes, qui utilisent donc les dernières technologies, ça n'a pas l'air comme ça, mais effectivement publier des images y compris de cette façon, si vous voulez, qui est sommaire pour la fin du 19e siècle. Mais ça veut dire qu'on les publie en très grand nombre et pour un coût ridicule. Parce que un manuel scolaire, aujourd'hui comme hier, il ne faut pas que ça coûte trop cher. C'est fait pour tous les enfants de France, pour tous les élèves. Ce sont des volumes d'impression extrêmement importants. Donc en termes éditoriaux, c'est des vrais challenges qui supposent donc des assises technologiques assez solides et un état de la technique qui est, en l'occurrence, pour l'époque, le bénéfice des derniers progrès technologiques. Bon. Alors, on va feuilleter très simplement quelques-unes de ces pages et vous voyez que l'illustration est variée. On a bien sûr des portraits, ça c'est la façon la plus simple de donner idée de la figure, de l'aspect d'un héros historique. Et puis, bien sûr, on a des formes, un portrait de Victor Hugo, et puis on a d'autres formes iconographiques, des cartes qui sont des documents scientifiques, ou bien, et c'est évidemment ce qui m'intéresse ici le plus, en général, en ouverture de chapitre, ces petites images dont vous avez déjà vu un autre exemple, et qui sont donc... qu'est-ce que c'est que ces images? Ce n'est pas des portraits, ce n'est pas de la cartographie, ce n'est pas vraiment du document scientifique. Ça c'est des exemples de portraits. Oups, je suis allé trop vite. Alors voilà, ça c'est un exemple, donc inauguration de l'exposition universelle de 1889 dans un volume de 1894. C'est intéressant, on est très proche de l'actualité. Et là, en l'occurrence, je dirais que cette image-là, elle est un peu une exception. Ça pourrait être une photographie, je vais le dire comme ça. C'est une image qui connote la photographie. En réalité, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Faire une photo comme ça en 1889, c'est pratiquement impossible. Il y a trop de monde, ça bouge trop. La photographie est encore trop lente pour enregistrer une image de ce type. Donc, c'est plus vraisemblablement un dessin d'après photographie. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa représentation connote la photographie. Là aussi, je vais vite, mais à côté de ces ouvrages dont vous avez quelques exemplaires sous les yeux, il y a bien sûr cet autre matériel pédagogique très connu et qui a fait longtemps la gloire de la France, qui a été beaucoup imité ensuite, c'est les panneaux pédagogiques, qui sont donc ces grands tableaux. J'espère que vous avez eu encore dans votre enfance, puisqu'on ne les trouve maintenant plus que dans les écoles primaires, mais l'occasion d'être confronté à ce matériel, souvent très intéressant, réalisé comme les livres de classe par des éditeurs indépendants, et qui comprend, alors il n'y a pas que des tableaux d'histoire, bien sûr, il y a des panneaux en particulier de géographie, c'est souvent ceux dont on se souvient le mieux. Bon, je ne sais pas si vous avez des souvenirs, on pourra les évoquer tout à l'heure, mais voilà donc un panneau pédagogique classique. Alors eux aussi sont d'abord en noir et blanc à la fin du 19e siècle, et puis à partir du début du 20e siècle, très rapidement, ils vont être en couleur, de plus en plus en couleur, de plus en plus grand. Et là aussi, sur un plan technique, il faut avoir conscience qu'on est sur, disons, une technologie, si vous voulez, c'est un peu comme si aujourd'hui l'éducation nationale recourait, je ne sais pas moi, à l'iPad ou enfin, vous voyez, aux dernières technologies disponibles. Non, mais plaisanterie à part, c'est effectivement très moderne. C'est vraiment l'usage à la fois des dernières données scientifiques disponibles et du dernier état technologique. Alors donc, voilà, je reviens à un exemple parmi d'autres issu donc de l'un des deux ouvrages. Et donc, je ne vous ai pas encore dit son titre familier. Cet ouvrage, qui est donc le premier volume, le premier manuel illustré, s'appelle Le Petit Lavis. Et donc, peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi j'ai utilisé l'exemple de Pierre Nora au début de mon introduction. Pierre Nora ne s'intéresse pas au Petit Lavis. Il s'intéresse au Grand Lavis, il s'intéresse au Lavis en 27 volumes. Ça, c'est un ouvrage qui paraît avant l'histoire de France officielle, l'histoire scientifique d'Ernest Lavis. C'est la version vulgarisée à l'intention des écoles, et donc dans un cadre qui est très précisément celui de la systématisation du nationalisme français par l'école de la Troisième République. Alors, je ne veux pas trop insister sur l'histoire du nationalisme, qui est une histoire complexe. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans les discussions. Mais vous devez avoir à peu près en tête le schéma général, qui est en gros l'idée que, à partir de l'événement révolutionnaire, il y a une césure qui va se manifester, en particulier en France, qui est en tout cas un des premiers pays à faire jouer au concept de nation ce rôle de, on pourrait dire, d'agrégateur de communautés, de fabrication d'un esprit partagé, ou d'une culture, voilà, pour prendre un mot plus neutre, d'une culture partagée à l'échelle de ce qui ne s'appelle pas encore une nation, puisque ça va être le résultat de cette fabrication. Et alors, pour expliquer, si vous voulez, ça a un sens politique, c'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, les populations, elles sont vassales d'un prince, d'un roi, d'un féodal local. Et donc, une population dépend directement de son seigneur, quel qu'il soit. Ce qui veut dire, par exemple, que si vous êtes en Lorraine, vous êtes protestant, comme le prince ou le duc, en l'occurrence, de Lorraine. Alors que si vous êtes breton, eh bien, vous êtes catholique, parce que vous appliquez la culture locale, qui est celle du duc de Bretagne. Bon. Donc, on a un système de vassalité qui crée des communautés et des cultures locales, mais pas de sentiment d'appartenance. C'est une relation de clientélisme. Le seigneur, selon les règles, selon les lois de la féodalité, le seigneur protège ses vassaux, donc ses vassaux lui doivent en contrepartie un certain nombre, voilà, remerciements et impôts. Bon. Donc c'est un système d'échange qui est basé sur des contrats. Alors, la Révolution française et la Première République vont évidemment bouleverser complètement ce système. Il n'y a plus de relation de vassalité. On abolit les privilèges. C'est la nuit du 4 août. Les citoyens sont égaux en droit, théoriquement. Ça prendra pas mal de temps, mais bon, ce qui est écrit dans les textes, c'est l'égalité, la liberté et la fraternité. Donc comment on fait, une fois qu'on a aboli hein, tous les systèmes d'échanges culturels, de liens, de clientèle et de vassalité, comment on fait pour que tous ces gens marchent ensemble, et en particulier, un des problèmes qui va se poser tout de suite à la Jeune République, c'est comment on va faire que tous ces gens-là aillent combattre, aillent se battre à la guerre pour défendre quelque chose qui n'est plus leur territoire. Hein, quelle va être la raison pour laquelle, quelle va être leur raison de défendre un territoire pour lequel ils n'ont pas d'attachement particulier, donc à l'échelon national. Donc le nationalisme est une sorte de réponse qui a un volet philosophique, mais aussi une dimension très pragmatique et qui va effectivement viser à ancrer voilà, des populations dans un territoire qui est en fait le territoire défini par l'administration. C'est ça une nation. Et donc voilà, aujourd'hui, nous sommes tous, vous, moi, tout le monde, persuadés hein, de l'idée de l'existence de cette abstraction, de cette fiction qui est la nation, au point que quand quelqu'un comme Gérard Depardieu voilà, quitte, hein, prend le passeport russe et s'en va, devient citoyen russe, bon, on est tous très choqués, on trouve ça pas bien. Hein, voilà. Donc ça veut dire nous sommes tous nationalistes. Hein, nous avons complètement intégré dans notre culture ce rapport très particulier au territoire. Alors, donc la question évidemment qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de voir quel rôle ont joué les images dans cette construction, et en particulier, hein, quel rôle ont joué les images à partir du moment où les historiens eux-mêmes font comme si ce matériel n'existait pas. Dans la doxa de Pierre Nora, il n'y a pas d'image. Il n'y a que du texte. Il y a Michelet et Lavis qui construisent les récits de la nation. Alors, moi, ce que je vois, c'est d'autres objets, hein, voilà, comme cela, et je vais m'intéresser à la façon dont ils sont fabriqués. Donc, pour prendre un exemple comme celui-là, voilà, nous sommes au livre 5, la Révolution française jusqu'à l'établissement de l'Empire. Et bien sûr, on a cet épisode du jeu de paume, du serment du jeu de paume. Donc, qu'est-ce que c'est que ce dessin qui figure ici en frontispice de chapitre ? Ce n'est pas évidemment une photographie. Ce n'est pas non plus un dessin documentaire, comme peut l'être un portrait qui vous montre les traits d'un roi. Un prince. Qu'est-ce que c'est que ce dessin ? Est-ce que quelques-uns d'entre vous, peut-être, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que vous connaissez cette image ?
C'est un dessin qui était fait d'un homme qui était présent pendant le serment du jeu de paume et qui a reproduit pour que ça soit noté dans le contrat qui signait, enfin le serment. Ça a bien prouvé que tout le monde était présent.
Oui, vous êtes sur la bonne piste. Alors, en fait, il s'agit. Voilà. Il s'agit d'un tableau très connu qui est dû au peintre Jacques-Louis David. Tableau inachevé d'ailleurs, mais qui est une commande qui est une commande de la République, hein, au peintre qui est à l'époque l'un des peintres les plus célèbres, et en particulier célèbre pour sa peinture d'histoire, et qui date de 1780. Donc, le dispositif que je vous ai montré, voilà, on va le compléter de cette façon. Voilà, la petite page du livre d'histoire, du manuel d'histoire, en fait, reprend, dans une version réduite et en noir et blanc, une image qui n'est pas exactement une image d'information. Hein, on peut pas, c'est pas, la peinture de David n'est pas une peinture de reportage. C'est une transformation de l'événement. C'est une peinture qui est comme une statue de l'événement. Vous voyez, c'est pas une statue, mais c'est la peinture d'histoire est une peinture qui emblématise et qui magnifie les événements Je n'ai plus souvenir si David était présent sur place pour le serment, mais je ne crois pas. Peu importe, il en fait une représentation dont vous voyez, et donc j'ai rajouté ici bien sûr la version panneau, donc panneau pédagogique. Donc vous avez le manuel, le panneau et le tableau qui était en l'occurrence au Louvre. Et vous voyez que tout ça constitue un ensemble cohérent qui raconte la même histoire et où on a une circulation entre un objet qui est un objet historique, puisque voilà, c'est un tableau de 1791, c'est tout de même, voilà, on est très proche encore une fois de l'événement, et ces versions illustrées qui donc, alors vous le notez au passage, ne sont donc pas des copies stricto sensu, mais des versions redessinées par un illustrateur. Chaque fois, il y a quelqu'un qui redessine le tableau et qui le modifie un petit peu, qui l'adapte, qui en change certains aspects, qui, par exemple, vous voyez que les couleurs des costumes sont un peu différentes dans la version du tableau pédagogique. Évidemment, la version noir et blanc, elle est encore différente, mais vous voyez que, par exemple, le dessinateur, l'illustrateur, dans ce cas-là, on appelle ça un illustrateur, puisqu'il s'inspire d'une image existante, a inventé un fond avec des pierres de taille pour donner à la fois un aspect solennel à son image et puis meubler un peu un fond qui, en noir et blanc, aurait peut-être été trop blanc, trop vide, s'il avait voulu respecter l'original de David. Bon. Donc, ce ne sont pas des copies strictes, ce sont des variations. Mais ces variations font système et on est dans une forte cohérence à l'intérieur d'un même type de repère historique et iconographique. Donc là, ce que je voudrais décrire très rapidement à partir d'un tableau, c'est comme ça que marchent à peu près toutes les illustrations de ce type dans donc les manuels d'histoire et ou les panneaux pédagogiques. Donc ça c'est l'exemple avec la Jeanne d'Arc de Le Neveu, et vous voyez, alors souvent en fait un illustrateur dessine à l'envers, donc ça c'est en fait ce sont des systèmes de copie, ça montre qu'il a copié probablement une gravure du tableau. On peut avoir un autre exemple, toujours Le Neveu, qui a été un grand, évidemment Le Neveu a dessiné Jeanne d'Arc, c'est un peintre normand. Jeanne d'Arc, ça fait partie de l'histoire locale de Rouen. Donc, comme il a une iconographie très nourrie de Jeanne d'Arc, les illustrateurs se sont beaucoup servis chez ce peintre qui n'est plus très connu aujourd'hui, mais dont vous connaissez en réalité plusieurs images à travers les versions des illustrateurs, dont certaines sont arrivées jusqu'à nous. Et donc, vous voyez qu'il y a des variations. Là, par exemple, il a changé pas mal de choses. La scène est vraiment sensiblement modifiée, mais on voit à certains détails que, effectivement, c'est la source, ce qu'on appelle en histoire de l'art la source. C'est-à-dire que l'illustrateur donc ne dessine pas de tête, évidemment, il ne dessine pas n'importe quoi. Il utilise une source iconographique et source qui est donc dans la quasi-totalité des cas une peinture d'histoire. Donc voilà, là c'est pareil, l'image en couleur n'est pas dans le manuel, là j'ai mal fait mon montage, c'est la source de l'illustration de gauche, de droite. Et voilà, donc évidemment pour cette série d'illustrations, je suis remonté jusqu'à une période plus récente, et vous voyez que cette économie iconographique, qui est très feuilletée, elle a une densité historique et des effets de reprise innombrables aujourd'hui. Donc voilà, on pourrait s'amuser à rechercher sur Internet les copies, les versions, les imitations, les remixes de ces images. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est encore une fois l'idée que toutes ces illustrations ont un même point de départ, qui est la peinture d'histoire. Alors, la peinture d'histoire, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose que vous allez avoir du mal à voir. Si vous allez au musée d'Orsay, qui est le musée officiel de la peinture du 19e siècle. Qu'est-ce que nous raconte le musée d'Orsay ? Le musée d'Orsay nous raconte l'histoire de l'impressionnisme. Et on est plutôt dans le dernier tiers, en réalité, du 19e siècle. Bon. Mais voilà, la moitié d'Orsay est consacrée à cette histoire de la peinture qui sort à l'extérieur. Donc on a les plénéristes, ils vont à Fontainebleau, on a des arbres et des très rochers, très jolis. Et puis, progressivement, voilà, tout ça nous amène à l'impressionnisme et à une mutation esthétique fondamentale. Bon, très bien. Ça, c'est une partie de l'histoire de l'art du 19e siècle. Mais Orsay ne vous montre pas la peinture d'histoire. Très peu. Très peu, alors que c'est la grande peinture du 19e siècle. Au 19e siècle, l'impressionnisme, je suis désolé de le dire à Orsay, c'est pas très important. Ça va devenir beaucoup plus important au 20e siècle, en réalité. Bon. Mais voilà, c'est un peu des trublions. Voilà, ça concerne un tout petit marché, la vraie peinture. Si vous êtes un contemporain de Baudelaire ou de Nadar, c'est la grande peinture d'histoire, la peinture qu'on va voir au salon. Il y a le portrait et la peinture d'histoire. La peinture d'histoire, aujourd'hui, on en a honte. La raison pour laquelle Orsay ne vous la montre pas, c'est que c'est une peinture qui, aujourd'hui, gêne beaucoup les historiens d'art. On appelle ça les pompiers, maintenant. Voilà. Donc c'est une peinture qui a plusieurs défauts. Elle est réaliste. Ce qui, depuis l'invention de la photographie, enfin, ne se fait plus en art. Quoi. Bon, c'est pas, on a le droit de faire du réalisme au XVIIe siècle. Poussin a le droit de faire du réalisme parce qu'on est bien avant la photographie. Mais après la photographie, faire du réalisme, vous voyez, bon, on n'aime pas ça. Et puis, ce n'est pas seulement une peinture réaliste, c'est aussi une peinture anecdotique. La peinture d'histoire est une peinture qui ne raconte pas seulement l'histoire avec un grand H, mais c'est une peinture qui raconte des histoires, des petites histoires, des anecdotes, des morts, des événements. Tiens, voilà, en voilà une. Qui est. Alors, bah, donc là, je remonte, en fait. Donc ça, c'est une des origines fondamentales de l'histoire que je suis en train de vous raconter. C'est toujours David, bien sûr. C'est un portrait de Napoléon et en réalité de Bonaparte. C'est une commande d'État de 1801. C'est le premier portrait officiel de Bonaparte. Donc, c'est Bonaparte franchissant le Simplon, franchissant les Alpes. Alors, on ne voit pas bien sur ma reproduction, mais sur les rochers, il y a les noms des grands conquérants romains, Hannibal, etc., donc les conquérants de l'histoire, que tutoie donc ce nouvel héros de l'histoire française. Alors, une image comme celle-là, elle est très importante. Elle est très importante parce que, d'une part, c'est une invention. Et vous voyez, je suis en train de vous... En fait, on appelle ça peinture d'histoire, c'est une sorte de paradoxe. Les peintures d'histoire que faisait David avant la Révolution française et Napoléon, c'était les Horaces et les Curias. C'était l'histoire romaine, c'était de l'histoire très très ancienne, qui était l'histoire légitime, la grande histoire, celle qu'on aimait raconter. Vous voyez, de la même façon que Racine nous raconte... Thucydide, etc. Les peintres comme Poussin ou David racontaient plutôt l'histoire romaine et l'histoire grecque. Là, on est dans le présent. C'est un tableau de 1801, d'un événement de 1801. Donc, en fait, c'est une sorte... C'est presque comme du journalisme. C'est une peinture d'actualité. Mais vous serez probablement d'accord avec moi pour dire que c'est plus du tout un portrait. C'est une emblématisation, c'est une allégorisation, c'est-à-dire que c'est appliqué à un fait d'aujourd'hui les techniques de figuration de la peinture d'histoire. Alors, ce tableau va avoir un succès considérable. Je vous le montre ici de cette façon. Ça, c'est la première gravure en 1804 du tableau de David, mais on va le reproduire au fil du 19e siècle, bien sûr, sur tout un tas de supports. Ça commence doucement. Au début du 19e, Donc voilà, on a une forme de reproduction qui est encore assez, assez sommaire, mais voilà, à travers le commerce de l'estampe, qui va donc beaucoup se servir de l'épopée napoléonienne, et Napoléon dans cette histoire est très important, hein, vous comprenez bien. Pourquoi ? Parce que Napoléon, c'est en quelque sorte, c'est l'incarnation de l'histoire. C'est l'histoire faite homme. Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Je vous l'ai dit, c'est des grands événements, c'est des événements héroïques, hein, ce sont des choses voilà, de dimension épique. Et Napoléon, immédiatement, qui a son style bien à lui, qui est très différent de Louis XVIII, si vous voulez, ou Louis XVI, hein, c'est de tutoyer l'épopée. Celui qui en parlera le mieux, c'est Victor Hugo. Et donc, cette façon, hein, d'incarner l'histoire, mais au présent, il s'avère que ça va répondre d'une manière absolument magnifique à la situation historique qui avait été ouverte par la Révolution française. La Révolution française a, pour les contemporains, en quelque sorte, mis l'histoire en marche. Hein, voilà. On vivait dans une espèce de société immobile, avec voilà, des relations sociales et politiques qui étaient instituées depuis plusieurs siècles, donc en l'occurrence sous l'absolutisme. La Révolution interrompt tout ça, change complètement le système, donc on a bien l'impression d'une histoire qui se met en marche, et puis tout de suite intervient l'épopée napoléonienne, qui va être voilà, des guerres remportées, des victoires, une longue série de victoires avec ce jeune général extrêmement glorieux, et dont l'histoire est répétée, reproduite dans les journaux, très rapidement dans des livres, et bien sûr sur tout un tas de supports iconographiques, en particulier donc d'estampes. Mais alors, vous sentez bien que j'ai une intuition de recherche là, qui me mène vers la porcelaine et l'assiette décorée, mais pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de. C'est un gros projet de recherche, ça. L'assiette décorée est un support incroyable et magnifique. Alors, bon, Napoléon, si vous ne voulez pas Napoléon, voilà, toujours reprenons Jeanne d'Arc, qui est un bon modèle. Hein, voilà, ici, sur une vignette, hein, de la grande épicerie centrale Poulain. Donc là, on vous vend du chocolat, hein, c'est toujours Poulain. On est vers 1870, et vous voyez que l'image de Jeanne d'Arc, voilà, sert exactement... Ce type d'objectif. Et revoilà donc nos assiettes. Je me suis dit que j'allais les remettre ici. Et donc, peut-être que vous comprenez mieux maintenant, dans quel contexte s'insèrent ces images, hein, qui sont donc des reprises de peintures d'histoire sur des supports populaires. C'est de l'iconographie populaire. C'est comme des calendriers ou de la bande dessinée d'aujourd'hui, si vous voulez. Mais avec donc la légitimité, hein, de la peinture d'histoire, et ce sont des images qui racontent le roman national. Bon. Donc c'est exactement ça, hein, qui se passe dans les petits manuels d'histoire que je vous fais passer. Donc c'est la même histoire, et d'ailleurs c'est les mêmes images. Donc pour, si vous voulez résumer un petit peu le schéma structurel, hein, vous voyez, j'ai dit voilà, l'histoire. La construction de l'histoire, elle s'effectue au départ par des monuments qui sont, par exemple, des statues. Les statues, pourquoi des statues ? Parce que les statues sont effectivement des objets publics. Hein. Des peintures, en général, ou des fresques, si vous voulez, bon, elles sont à l'intérieur, elles sont protégées. C'est souvent quand même difficile de les montrer de façon très large. Les statues, en revanche, elles sont au milieu de places publiques. Et donc, voilà, de la même façon que les grands bâtiments, les cathédrales ou les églises, elles appartiennent à tous. Au moins en théorie. Donc, ce qui se passe à partir du début du Xe siècle, ça va être un glissement du système monumental de représentation de l'histoire à un système iconographique, donc plus précisément, qui délaisse, si vous voulez, enfin, on va continuer à faire des statues, bien sûr, hein, mais qui surajoute à cet ancien système un nouveau système qui est donc, qui porte la légitimité de l'art et de la haute culture, mais qui surtout va exister par ses reproductions et ses reproductions industrielles, c'est-à-dire que, voilà, en gros, on a une technologie qui nous permet de plus en plus facilement de mettre des images un peu partout et sur toutes sortes de supports, Et ce qui va se passer, c'est que les industriels vont s'apercevoir que s'ils mettent Napoléon ou Jeanne d'Arc sur un support, sur une boîte à bonbons, sur une assiette, sur un calendrier, eh ben, ils vont en vendre plus que s'ils mettent d'autres images ou pas d'images du tout. Et donc, voilà, on a cette conjonction hein, qui s'effectue de façon assez naturelle, en tout cas assez pragmatique. Le succès de l'épopée napoléonienne devient un très bon produit commercial sous la forme d'images à collectionner, à acheter, à consommer de diverses façons. Et quand je dis à consommer, ça veut dire que voilà, la forme, le dernier état de la forme visuelle, c'est quelque chose que vous pouvez accrocher chez vous. Et donc, on est bien dans le même esprit que celui de la statue objet public, mais c'est encore plus fort, c'est encore plus proche. Hein, vous pouvez vous approprier complètement une image qui est en même temps un message politique. Donc, alors, jusque-là, si vous voulez, au fond, tout ça ne pose pas de problème particulier. Je décris une évolution historique avec quelque chose qu'on pourrait appeler une adaptation aux nouvelles technologies de l'époque et donc une évolution de la figuration publique qui devient un support populaire et qui devient un objet appropriable. Bon, jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que, disons, il y a cette fameuse peinture d'histoire, elle a un style que je vous montre ici avec un tableau de Delaroche. Delaroche qui est un élève de David, donc tous les pompiers, Jérôme, Delaroche, etc., vont être des élèves de David. Et il continue donc ce style de peinture. Alors Delaroche est un magnifique, un grand peintre d'histoire. Et donc voilà, la peinture d'histoire, c'est ce que j'essaie de vous montrer ici, avec l'exécution de Jane Grey. C'est donc cette peinture très anecdotique, ce qui fait d'ailleurs qu'on s'en est détaché aujourd'hui qu'elle nous paraît plus proche justement des formes populaires comme le roman sentimental ou vous voyez des choses un petit peu bas de gamme. Alors que notre vision de l'art a changé entre-temps et pour nous l'art c'est quelque chose qui a une exigence formelle et une ambition beaucoup plus sociale, hein, plus importante et c'est pas de montrer des images un peu sentimentales hein, comme ça mais ces images donc anecdotiques effectivement vont être celles qui servent à construire l'histoire. Je vous fais ce résumé hein, très rapidement. Donc la mort de Barra, autre épisode qui y figure dans tous les manuels scolaires, mais qui y figure par l'intermédiaire d'une image qui est une adaptation d'une source picturale. Alors, la médiation des illustrateurs, elle est très importante. Hein, les illustrateurs sont les ouvriers de l'industrie culturelle. Ce sont eux qui permettent l'industrialisation de cette iconographie par la production illustrée. Ce sont eux qui permettent de récupérer l'histoire à l'école dans le cadre de l'enseignement et de l'entreprise nationaliste de la Troisième République. Alors cette histoire, elle ne s'arrête pas là. Et je vais m'arrêter, mais le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté à la peinture. Et que évidemment, on a continué en photographie. C'est pas parce qu'on a changé de médium qu'on a arrêté ce système de figuration qui marchait très bien et qui plaît aux gens. Ça raconte beaucoup de choses, cette vision allégorique de l'histoire. Donc aujourd'hui, en réalité, nous sommes dans la continuité. Alors ça, c'est un exemple qui est évidemment très parfait puisque en réalité, les photographes s'inspirent. Comme les illustrateurs d'Emmanuel, en l'occurrence d'un précédent, hein, qui est le tableau de Delacroix. Ça c'est au milieu, vous avez la version de Paris Match de mai 68, et puis une autre, une manifestante plus, plus récente, ça c'était, en, c'était la manifestation de 2008. Alors, bon, je vais passer rapidement là-dessus. Mais voilà, pour prendre un autre exemple plus récent, vous avez certainement en tête, hein, sur l'image de droite, celle qu'on a appelée la, la Madone des décombres, d'une drôle d'appellation, puisqu'il n'y a, a rien de chrétien là-dedans, hein, mais qui est voilà, l'illustration de la continuité de ce, cette narration, de cet usage narratif des images, qui est très ancienne. Hein, voilà, je vous mets l'origine de l'iconographie récente, qui est le principe de la pleureuse, qui est un principe antique. Hein, voilà, y a, quand, pour exprimer un deuil, pour exprimer une catastrophe, et en particulier les résultats d'une guerre, donc vous, ça, c'est un bas-relief à Rome, hein, qui montre exactement la même chose, hein, c'est-à-dire qui montre le, les désastres de la guerre, et qui le montre par un personnage féminin qui pleure. Voilà, parce qu'évidemment, elle est mère, elle est épouse, elle a perdu ses fils, son mari. Voilà. Donc, une femme, après une guerre, est toujours dans une situation épouvantable, en tout cas à l'époque. Et donc, voilà, cette figure est tout à fait compréhensible, mais c'est une allégorie. Hein, donc, c'est une façon de personnifier un symbole et de raconter une histoire par l'image. Donc, vous voyez que c'est un système très ancien. Sa réactualisation s'effectue après la Seconde Guerre mondiale à travers l'imagerie humanitaire. Ça, c'est très intéressant. En fait, c'est, la, c'est l'imagerie de promotion des ONG et des œuvres caritatives, enfin, de, pas des, carita- des ONG, qui vont sur place, en particulier en Afrique, en Inde ou en Asie, essayer d'aider des populations dans le malheur. Et pour voilà, promouvoir cette action, ils vont produire cette iconographie très, très marquante qui est construite exactement comme la peinture d'histoire, avec hein, ces principes d'allégorisation et ou d'anecdotisation, ce qui est à peu près la même chose. Et donc, vous voyez qu'on retrouve voilà, jusqu'à nos jours cette façon de faire. Donc voilà, je dirais en conclusion que voilà, je vais adresser à Pierre Nora une question, un soupçon. Est-ce que, voilà, si on écoute Pierre Nora, ce ne sont pas les images qui font l'histoire. En réalité, je pense que c'est exactement l'inverse, hein, c'est-à-dire que c'est l'investissement médiatique héritier de la monumentalisation qui pose en réalité les structures de l'histoire officielle. Et donc, c'est essentiellement avec des images qu'on construit l'histoire. Je vous remercie.
Merci. Merci André. Passer le micro. Pardon.
Merci. Merci beaucoup André de cette conférence qui est à la fois effectivement très, très riche et stimulante. Ça fait écho à plein de choses, mais peut-être y a-t-il des questions de la part des étudiants et du public. Je reprendrai après.
Le titre de votre intervention est « La fabrique du nationalisme et l'industrialisation des images ». Où est le nationalisme ?
Alors là, en l'occurrence, dans cette dernière image, vous avez raison, il n'y est pas. Là, on n'a que de la figuration. Donc, si vous voulez, la dimension industrielle de la fabrique des images. En revanche, il est donc présent, évidemment, dans toute l'iconographie, en particulier historique. Donc c'est, alors, pour faire le lien avec l'autre sujet que je n'ai pas traité, vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant. Le nationalisme s'appuie sur les images.
Oui, mais vous donnez à nationalisme le sens de patriotisme ?
Non. Je donne à nationalisme le sens d'une grande entreprise de construction culturelle délibérée, hein, qui est le fait des États, en s'appuyant, en l'occurrence, par exemple, en France, sur l'école, de manière tout à fait... C'est l'histoire de l'école de la Troisième République. Donc la construction du nationalisme, si vous voulez, elle accompagne naturellement la Révolution française, puisque à partir du moment où vous avez ce nouvel État avec des citoyens, il va falloir construire un espace mental à l'intérieur duquel élaborer la position du citoyen. Mais ce qui va se passer à partir de la Troisième République, c'est la systématisation du nationalisme, c'est-à-dire que le XIXe siècle, il faut se rappeler que c'est un siècle de bouleversement, de révolution, mais aussi de contre-révolution. Donc entre 1789 et 1870, on a énormément de soubresauts, de retours en arrière, de révolution et de contre-révolution. Donc la Troisième République, pour en quelque sorte mettre un terme à ce qui n'est pas encore une institution très solide, hein, la République semble encore très fragile, va effectivement de manière extraordinaire, hein, et de façon tout à fait délibérée, construire un énorme programme qu'on pourrait dire, si vous voulez, si on voulait être polémique, de propagande, hein, mais c'est la même chose, donc appelons ça culture ou propagande, en tout cas, c'est l'idée de transformer les petits Bretons, les petits Basques, les petits Alsaciens en Français, qui vont parler la même langue, qui vont apprendre donc dans les mêmes manuels et qui vont réciter les poésies de La Fontaine et de Victor Hugo, et qui vont apprendre l'histoire de France, hein, et donc non pas celle de leur petit, non pas le folklore ou la culture de leur local, hein, mais un certain nombre de données qui sont issus des sciences, vous voyez. Donc le personnage de Jeanne d'Arc, c'est Michelet qui invente le personnage de Jeanne d'Arc. Hein. Je dis ça de façon à peine provocante, mais quand Voltaire parle de Jeanne d'Arc, c'est pas du tout notre Jeanne d'Arc. Hein. Au XVIIIe siècle, Voltaire se moque de Jeanne d'Arc comme d'une créature de qui est voilà qui est crédule, qui est dans le... Enfin bon, je vous renvoie. J'ai tapé Voltaire, Jeanne d'Arc. Bon, il se moque d'une façon totalement odieuse d'un personnage qui n'est pas du tout encore un héros de l'histoire de France. C'est effectivement le XIXe siècle qui va faire de Jeanne d'Arc une des inventrices, une des inventeuses, un des inventeurs de la nation française. Jeanne d'Arc sauve et invente en même temps la France contre l'envahisseur anglais. Donc voilà, en quelque sorte, gagne la guerre de 100 ans, en tout cas par les images.
Si je vous caricature, est-ce que je peux dire que ce sont les ancêtres de la BD qui inspirent une espèce de désir d'appartenance à une même nation ? Enfin,
c'est un peu fort, mais au fond, vous avez bien compris l'idée. C'est-à-dire, l'image est un outil essentiel de quelque chose qui est un mécanisme d'appropriation et de... Parce que si vous voulez faire passer une idée et la faire adopter par des gens pour qui elle n'est pas naturelle, pour voilà, un habitant de Rennes de cette époque-là, il y a un folklore local, il a des allégeances locales, il y a des éléments culturels très puissants qui s'opposent en fait à l'intégration dans l'idée nationale. Donc c'est un travail qui va durer des décennies, qui est, je le disais en ouverture, maintenant acquis, et qui est un système si efficace qu'il a été reproduit par tous les pays, d'abord européens, et puis aujourd'hui à l'échelle du monde entier. Hein, le nationalisme est une construction qui va avec, en réalité, l'élaboration de n'importe quelle entité administrative qu'on appelle pays. D'échelle nationale, disons.
C'est une propagande polie.
Pardon ?
C'est une propagande polie.
Oui, on peut. C'est un usage délibéré avec donc des technologies modernes, hein, donc de la publicité visuelle. Je trouve ça, si vous voulez, aujourd'hui, à un moment où l'école a un peu de mal, hein, disons-le, à assimiler, hein, les nouvelles technologies et à l'air, disons, d'avoir des rapports compliqués avec le numérique, avec Internet et avec voilà, toutes ces choses qui semblent venir d'ailleurs. C'est extrêmement intéressant de voir l'usage de l'image qui, si vous voulez, n'était pas moins sulfureux en 1870 qu'aujourd'hui. Bien au contraire. Donc on utilise l'émotion de l'image, la séduction de l'image, on l'utilise volontairement pour intégrer et faire adhérer des populations qui vont effectivement apprendre grâce à l'image, comme au Moyen-Âge. Hein. C'est comme, le principe est celui de...
Comme les vitraux.
Voilà, hein, c'est le principe des églises, mais à une autre échelle et avec les moyens de l'industrie. Alors, pour dire un mot simplement de la situation actuelle, et pour résumer en deux phrases mon propos sur les pouvoirs occultes, cette façon qu'on peut critiquer de manifester un objectif politique. Donc on passe par des images, qui sont des allégories et qui sont donc une certaine façon de montrer l'histoire. Mais c'est quand même, je pense qu'il vaut mieux montrer l'histoire, même si c'est d'une façon qui est critiquable, que de ne pas la montrer du tout. Or aujourd'hui, la construction d'une entité supranationale comme celle de la communauté européenne, en fait, ça n'a pas réussi. On a réussi à construire à l'échelle des nations. Et ça a pris du temps, et ça a pris beaucoup d'efforts, et il a fallu mettre beaucoup d'énergie, hein, et de la publicité dans l'école. Enfin voilà, on y a énormément travaillé, mais ça a marché. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas une identité. Voyez, pour vous et moi et les habitants de l'Europe, on a une espèce d'embryon, hein, de sentiment européen, mais ça n'a rien de comparable avec le sentiment qui nous lie à la nation. Et ça, donc, ça veut dire que cette construction-là, elle a échoué, au moins pour l'instant, et au moins en partie. Et ce que je constate, moi, de mon point de vue d'observateur des images, c'est qu'effectivement, on n'a pas eu du tout ce même usage volontariste des images. Et les pouvoirs qui se sont élaborés, par exemple, à l'échelle européenne, mais ce n'est pas seulement un problème européen, ça s'est fait, en fait, dans la même période, à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que ce qui s'est élaboré sont des réseaux transnationaux, donc avec des systèmes comme le FMI, toutes les instances qui aujourd'hui sont plus ou moins décisionnaires, hein, de notre vie, des normes qui s'appliquent et la plupart effectivement des lois qui sont supranationales pour l'essentiel du corps juridique. Ces effets, hein, sont produits par des structures qui n'ont plus de visibilité pour nous en tant que citoyens. Qu'est-ce que c'est le FMI? Vous voyez, alors oui, il y a une directrice du FMI, mais enfin, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien quelles sont ses missions, quels sont ses objectifs. Et pour la communauté européenne, c'est encore plus flou. Et des entités comme l'OCDE sont aujourd'hui clairement des structures d'experts qui imposent, de façon, il faut le dire, assez antidémocratique, un certain nombre de décisions. Et elles le font donc, voilà, sans cet appareil, que la critique du nationalisme a effectivement dénoncé comme propagande. C'est pas faux de le décrire comme ça. Mais en même temps, la situation d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus du tout d'image. Et qu'on a effectivement des pouvoirs qui n'ont pas développé un langage public et une exposition publique de leurs objectifs et de leur destin. De sorte que nous, citoyens, nous n'avons plus finalement de préhension, nous n'avons plus de moyens d'attraper ces fonctionnements politiques. Et c'est l'une des raisons, pas, bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est l'une des raisons qui nous rendent aujourd'hui aussi étrangers ces fonctionnements et ces décisions politiques. Donc vous voyez que finalement, cette histoire du 19e siècle, avec sa peinture d'histoire, avec son côté un peu bande dessinée, bah, finalement, ça nous a quand même aidés et ça nous a rapprochés du pouvoir, ça nous a permis de le comprendre.
Vous avez beaucoup parlé du caractère appropriable de ces images.
Oui.
Qu'est-ce qui distinguera une image qu'on s'approprie là vous avez utilisé uniquement des images justement qui sont passées à la postérité pour cette raison-ci, d'images qui n'ont pas été appropriées.
Par exemple ?
Bah, je ne sais pas, tout à l'heure vous disiez, il s'agit de rendre l'image ou le monument appropriable. Donc il y a un travail à faire derrière, un travail de narration pour que les gens par exemple savent qui est Jeanne d'Arc et puissent reconnaître le monument.
Tout à fait.
Mais l'approprier, c'est s'identifier à ce monument. Quel est le processus de cette appropriation ?
Alors, le processus d'appropriation, il est complexe. Si vous voulez, ce que votre question me permet peut-être de souligner, que je n'ai peut-être pas suffisamment indiqué, c'est justement le fait que... Alors, mon exposé porte plus particulièrement sur les images. Mais en réalité, évidemment, les images sont partie prenante d'un système beaucoup plus large, beaucoup plus important. Et il ne faut jamais les prendre de façon isolée ou les considérer comme si, effectivement, elles étaient les seules porteuses d'une sorte de pouvoir occulte, hein, justement, enfin, d'un pouvoir mystérieux qui serait d'influence. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et comme vous l'avez bien résumé à l'instant, c'est un ensemble de signaux, et en particulier des discours. Donc c'est un peu de la même façon. Hein, le mécanisme fondamental, on peut toujours s'imaginer, on peut toujours se rapporter à l'Église où vous avez un prêtre qui raconte quelque chose, qui donne, qui décrit une signification. Et ce n'est pas seulement un discours, c'est quelque chose qui est porté par son corps, par sa voix, c'est une incarnation. Donc c'est une autorité, donc c'est une confiance, donc vous voyez tout ça déjà. Et puis on a des éléments iconographiques hein, tout autour dans l'espace environnant qui sont susceptibles de s'intégrer à cette histoire. Et donc ce qui rend finalement ces différents éléments appropriables, c'est précisément leur cohérence interne. Hein, c'est le fait, voilà, vous avez au mur un Christ en croix, et puis on vous raconte le récit de ce Christ. Hein, où vous avez les santons de la crèche, et puis on vous raconte cette histoire. Et donc, voilà, c'est l'ensemble et sa répétition à travers des supports diversifiés. Vous voyez, Jeanne d'Arc, vous rencontrez une fois Jeanne d'Arc, une image ou un récit, vous dites, OK, d'accord, bon, on me raconte ça, très bien. Mais si vous le rencontrez plusieurs fois et de façon très répétée, au bout d'un moment, voilà, nous sommes entraînés à lire les signaux sociaux sous l'angle de leur répétition et à leur donner de l'importance en fonction de leur répétition et de leur aspect communautaire. Donc plus une information, c'est exactement ce que fait la publicité. Si la publicité répète les messages, c'est pour des raisons d'appropriabilité. C'est-à-dire qu'un message qui est donné une fois, on ne va pas lui donner beaucoup d'importance, mais un message qui est répété 10 fois, 100 fois, évidemment, on va lui donner en proportion de l'importance. Alors, ça ne suffit pas, hein, c'est pas mécanique. Il ne suffit pas de le répéter, sinon la publicité nous tiendrait complètement à sa merci. Non, c'est plus compliqué. Il y a tout un tas d'autres paramètres, par exemple, la notion d'autorité. Hein. Est-ce que celui qui vous délivre le message a l'autorité suffisante pour que vous fassiez confiance à ce message ? Ça, c'est un élément tout à fait déterminant. Et ça, c'est le problème de la publicité. Souvent, la publicité n'a pas l'autorité de l'énonciation. Donc, elle essaye de... C'est pour ça qu'elle répète beaucoup. Elle répète beaucoup parce qu'elle a moins d'autorité. Donc, elle essaye d'augmenter le paramètre de l'itération. Donc, voilà, pour dire en deux mots, hein, c'est un système conversationnel. C'est-à-dire, c'est un système qui joue sur à peu près tous les éléments possibles de la cognition et de l'apprentissage. Il faut, pour que ça fonctionne, il faut que ces éléments soient premièrement cohérents entre eux. Et il faut, la deuxième condition importante, quand je parle d'image publique, quand je parle de culture partagée, c'est effectivement l'idée que ça forme, que ça ait un sens pour une communauté. Et pas seulement à un échelon individuel. Donc ça, c'est la grande différence et qui nous permet d'identifier des signaux comme culturels. Un signal culturel est un signal, par définition, partagé. Et là aussi, évidemment, il y a des effets d'amplitude, c'est-à-dire plus un signal est partagé par un plus grand nombre de gens, plus nous avons tendance à le comprendre comme un signal culturel, et on va le dire autrement, comme une norme. Donc le pouvoir, vous voyez, il est dans la norme, et l'image peut être un véhicule, mais de la même façon qu'un texte ou un discours, de la norme. Donc quand nous reconnaissons une norme, on n'est pas obligé de l'appliquer, mais au fond, mais il faut la connaître. Il faut, pour pouvoir se déterminer par rapport à la norme, il faut l'identifier comme norme, comme, comme comportement partagé. Donc voilà, en gros, quelques éléments pour répondre à votre question.
C'est aussi avec ce système de répétition qu'on appelle aussi intériconicité, après ça dépend de citations d'une image à l'intérieur d'une autre image, c'est aussi une critique qu'apportait le photoreporter Gilles Saussier à propos des photographies de reportages contemporaines, regrettant, comme tu l'as montré à partir de certains exemples, que la photo de reportage contemporain ne fait que ressasser des vieilles icônes. Donc ça, c'est une critique qu'il a portée. Mais toi, tu as montré, avec aussi Clément Chéroux, comment le fait que la répétition, l'intericonicité permet d'attraper le lecteur qui est entouré, envahi d'images, en lui rappelant une image qu'il a déjà vue. À ce titre-là, donc ce qui est, je trouvais, donc ça, vous l'aviez montré de manière remarquable déjà il y a quelques temps, mais là, ce que je trouvais intéressant, c'est ce rapport à la monumentalisation. Parce que dans ce que tu avais écrit sur les photographies d'Abu Ghraib, en particulier, en essayant de montrer comment certaines images, et pas d'autres, avaient fait le tour du monde, en isolant les facteurs de succès de certaines de ces images au détriment de plein d'autres, ces facteurs, si mes souvenirs sont bons, c'était la simplicité. Tu te souviendras sûrement mieux que moi. Il y avait la simplicité donc dans le contraste. Donc on se souvient de l'homme cagoulé, par exemple, c'était noir sur blanc. Donc c'était effectivement très, très simple. Tout pouvait fonctionner à partir de silhouettes. Simplicité des formes et... Bababam.
Je ne sais plus quels étaient tous les critères, mais disons,
il y en avait plus, ouais.
c'est encore cette question de l'appropriabilité, c'est-à-dire effectivement quelque chose qui est trop compliqué, c'est pas appropriable. C'est vrai que la discussion qu'il y a sur le ressassement, c'est pas un ressassement, c'est une citation, c'est un effet de répétition volontaire qui apporte un élément de signification. Voilà, c'est plus simple de comprendre quand on vous remet une Madone. On a bien compris de quoi il s'agit, ou en tout cas, les éditeurs pensent que ça nous aide à comprendre l'état d'une situation. Donc, ce sont des simplifications, et en l'occurrence, ce sont des simplifications graphiques. Alors, l'image est très intéressante parce que l'image sait très bien faire ça. L'image est un outil qui produit cette synthèse visuelle de l'information et qui est donc c'est pour ça qu'on l'utilise. C'est parce que elle permet rapidement de produire un message appropriable parce qu'il est simplifié ou qu'il peut l'être. Donc voilà, effectivement, les images d'Abu Ghraib, on a retenu celles qui ressemblaient, par exemple, au modèle de l'iconographie chrétienne, même s'il n'y avait évidemment aucun rapport factuel, c'était pas possible. Mais visuellement, voilà, il y avait, en tout cas pour certaines populations, pas pour toutes, bien sûr. Ça a fonctionné exactement avec la Madone de Bentala. Je ne sais pas si vous avez en tête, parce que là maintenant, c'est déjà un événement de l'actualité un peu éloigné, mais c'est donc sur la guerre civile algérienne, cette image très célèbre de 1992, début des années 90, donc d'une femme algérienne en pleurs, qui est effondré devant un mur de pierre. Et donc, cette image a été appelée Madone de Bentala, ce qui est bizarre puisqu'il s'agit d'un contexte musulman. Mais évidemment, ceux qui formulent cette qualification, ce sont les Occidentaux. Autrement dit, ceux qui sont passés par la culture chrétienne, qui s'éloignent aujourd'hui d'ailleurs. Ces qualifications sont faites par des rédacteurs en chef de journaux qui sont des gens un peu plus âgés que vous et qui donc ont eu encore une éducation catholique, sont passés au catéchisme, ont appris et ont connu toutes ces images qui maintenant, moi, mes enfants, ils ont un rapport beaucoup plus distant à l'iconographie chrétienne. Et là, on se rend compte à quel point donc ces effets de structuration culturelle sont importants. Je me souviens très bien la première fois que j'ai emmené mes gosses au musée des Offices à Florence. Donc pour un historien d'art, le musée des Offices, c'est l'une des pierres de touche de la culture européenne. Ils avaient 7-8 ans. J'étais tout content. Je me suis dit, voilà, pour la première fois, ils vont voir le musée des Offices. Et je me souviens très bien, on s'est promené dans les couloirs et dans les salles. Et je me suis dit, oh là 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 là. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils n'avaient pas, je ne leur ai pas donné d'éducation religieuse, ils n'avaient aucun élément de référence pour rentrer dans une iconographie qui était à 98% religieuse, c'est-à-dire des illustrations, des épisodes de la Bible. Donc si vous n'avez ni lu la Bible, et puis pas seulement lu la Bible, mais voilà, qu'on vous l'a raconté, ressassé plusieurs fois, que ces événements ont pour vous une importance culturelle et symbolique, évidemment, et donc tout tombe, c'est totalement illisible. J'étais là complètement désolé, mais je me rendais compte, je me disais, voilà, c'était pas possible pour eux d'attraper cette peinture qui était totalement formaliste, abstraite et incompréhensible.
Est-ce que tu as des exemples en dehors de la Bible et de l'épopée impériale où tu montrais effectivement qu'on retrouvait au 19e, c'est le néoclassicisme aussi qui veut ça, qu'on retrouve l'antiquité grecque et romaine, mais est-ce qu'en dehors de ces deux... de ces deux fondamentaux, l'antiquité gréco-latine la religion, enfin la base de la religion chrétienne, est-ce qu'il y a d'autres exemples quand même de sources?
Oui. Alors, effectivement, si on se demande quels sont les plus gros porteurs symboliques, en tout cas sur le plan iconographique, donc véritablement l'iconographie nationaliste est une source fondamentale et jusqu'à aujourd'hui. Il y a un deuxième épisode, donc là aussi propagandiste, qu'on peut appeler comme ça, qui se joue sensiblement à partir de la même période, à partir de la fin du 19e siècle, et qui continue là aussi jusqu'à aujourd'hui, c'est l'entreprise hygiéniste. Donc l'iconographie médicale, qui dénonce d'abord l'alcoolisme, la syphilis et un certain nombre, la tuberculose, mais surtout l'alcoolisme en fait. Donc là encore, c'est très comparable. C'est une grande entreprise d'État. C'est une entreprise culturelle gigantesque pour laquelle on va mobiliser l'école, les journaux, la presse, et tout un tas d'instances dont la collection produit un énorme pouvoir culturel. On va mobiliser l'image. Et donc là, on mobilise donc l'imagerie scientifique, les foies déformées, violacées, etc. Donc là on convoque effectivement l'iconographie savante. Et c'est très intéressant. Et ça continue de marcher jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, les campagnes de la sécurité routière qui vous montrent des morts sur la route, ensanglantée. Ça, c'est une imagerie qui est violente, qui est volontairement violente, et qui s'inscrit dans la continuité d'une iconographie qui est très différente de l'iconographie chrétienne, où voilà, ça n'a rien à voir. Mais c'est une tradition alors plus scientifique qui a très très bien marché. L'hygiénisme est un des autres succès. Le nationalisme est un des grands succès des États modernes. L'hygiénisme en est un autre. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons l'espérance de vie qui s'allonge, qui d'ailleurs a cessé de s'allonger, ça c'est assez inquiétant, mais qui s'est allongée jusqu'à récemment. Et on dit toujours que c'est la médecine. En fait, ce n'est pas la médecine, c'est l'hygiène qui a produit cette amélioration des conditions de vie. Donc c'est un résultat très positif.
Oui, justement, pour reprendre ce que disait Anne-Cécile et ce que tu disais, demain, on a une journée d'études sur Art et Science. Tu vois, ça tombe bien pour les représentations, justement, des images concernant l'art et la science. En effet, quand on regarde l'histoire médicale, on a eu des conférences sur l'histoire de la vaccination, les représentations pour faire de la propagande sur la vaccination, sur des représentations qui ont fait le tour du monde. Enfin, c'est les images, les représentations de Pasteur, les représentations aussi des premiers vaccins, etc. Donc ça, il y a aussi un travail à faire là-dessus, je pense, qui est sur ces représentations, justement, qui sont aussi des représentations complètement nationalistes.
Oui.
Voilà, donc Anne-Marie Moulin avait fait une conférence ici, les grandes spécialistes de l'histoire de la vaccination, elle montrait bien justement
ça se croise, hein, voilà,
comment ça fonctionne.
Pasteur est un héros national.
Ah oui, oui, oui. Et les représentations ça... aussi que l'on a, en effet, des images, enfin des portraits. Enfin, tu as montré le portrait de Napoléon, mais si on prend les portraits des scientifiques, on a aussi des représentations même du scientifique lambda. Il y a des hommes célèbres, mais le scientifique lambda dans son labo, il a la blouse blanche, et là, on a vu une conférence là-dessus l'autre jour aussi, le microscope. Il y a toute une mise en scène aussi d'une image qu'on a complètement intégrée, qui devient un symbole, parce que je crois que la notion de symbole, c'est important aussi. Elle devient le symbole d'un concept. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, ou le concept d'un symbole, j'en sais rien.
Oui,
mais c'est vraiment
ce qu'on appelle l'allégorie, c'est-à-dire
voilà,
c'est
ça.
Effectivement symboliser
oui.
un...
Donc on entend Pasteur, on voit l'image de Pasteur. Voilà.
Avec sa bouteille.
J'ai trouvé extraordinaire parce qu'ils sont jeunes, mais ces livres-là, je les ai eus en main. Et il y a des images qui ce n'est pas le cours d'histoire qui reste, hein, franchement. Ce sont ces images. Attends, le Jeanne d'Arc, même Blondine dans la fosse aux lions. Enfin, moi, je me souviens, c'était quelque chose qui m'avait vraiment marqué. C'était l'anecdote.
C'est très puissant, hein, c'est-à-dire, c'est ça. Le fait que ça passe par tous les élèves de toutes les écoles, vous imaginez bien que ces images, ensuite, elles restent longtemps. Et voilà, c'est pour ça qu'on les retrouve aujourd'hui dans le journalisme, etc.
On en fait une image, une histoire, justement, très linéaire. Étant d'origine bretonne, tu comprends, c'est un peu saisi par ce que tu disais. Mais une histoire très linéaire, justement, qu'on s'approprie tous pour faire partie de la nation, même si notre histoire quotidienne n'a rien à voir avec ça.
Ouais.
Et ça, c'est intéressant, très intéressant le travail que tu as fait. Là. Merci. La dernière question, excusez-moi d'avoir...
Bonsoir. D'abord, je vous remercie pour cette intervention. Moi, j'ai une question qui est peut-être un peu... Là, on parle d'image, donc de peinture ou d'illustration. La photographie démarre milieu du 19e. Qui, dans la photographie, a travaillé dans ce sens-là aussi, à faire des photos qui sont devenues des symboles? Bon, moi, je pense à les images de puisqu'on parlait d'images de chercheurs, moi, je pense à la série des photos de Nadar sur Chevreul, sur les 100 ans de Chevreul, forcément. Mais comme ça, est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors, bien sûr, si vous voulez, c'est quelque chose qui va se développer très rapidement à partir de la fin du XIXe siècle, là aussi, c'est-à-dire à partir du moment où la photographie va être utilisée dans la presse. Parce que, au fond, le métier du photojournalisme, ça va être, là aussi, d'anecdotiser, c'est-à-dire enfin, de trouver une anecdote à raconter dans une image. Et la plupart du temps, et ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui, hein, vous voyez, on a eu récemment la renonciation du pape. Comment on montre la renonciation du pape? Vous l'avez probablement tous vu, enfin, si vous vous promenez encore dans les kiosques à journaux, ce qui... Alors, Libé, ils étaient un peu hors série, mais la plupart des journaux à l'échelle mondiale ont représenté le pape de dos. Voilà. Donc, c'est très simple. C'est une allégorie, mais vous comprenez, c'est pas une photo d'actualité. En général, c'est pas des photos qui ont été prises avant-hier. Ce sont des photos qui datent d'il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est un dos de pape. Un dos de pape, c'est supposé raconter l'histoire. Le pape s'en va. Hein, le pape quitte. Donc, vous mettez en une le pape de dos. Et c'est une image allégorique, c'est une image narrative, c'est une image qui raconte une histoire. Ce n'est pas du tout un document photographique au sens de la doxa. Voilà. Donc on l'a vu avant-hier, ça existe depuis l'origine de l'usage de la photographie dans la presse, qui d'ailleurs reprend les usages gravés, illustratifs et de dessins. Hein. Donc, une des choses les plus intéressantes à consulter aujourd'hui, ce sont les couvertures du Petit Journal, dont vous trouvez beaucoup en ligne. Donc, vous tapez le Petit Journal sur Google Images et vous allez, voilà, Vous allez voir d'où vient notre univers iconographique. Et ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point ça a peu changé. C'est-à-dire que voilà, les réflexes iconographiques sont très stables et on vit dans un paysage qui est très, très, très identifié et peut-être effectivement un peu répétitif.
Le mot de la fin, c'est vivement les prochaines versions de ces anciennes images. Et moi, j'aimerais voir alors, j'ai vu la statue de l'homme d'Abou Ghraib faite par un artiste contemporain à la Maison Rouge. J'attends toujours de voir quel artiste contemporain sculpteur pourra réussir à faire un républicain espagnol qui tient. Parce que ça, je crois que c'est un vrai défi à la monumentalisation.
On a le baiser de... le baiser de la fin de la guerre américaine. Hein. Ça existe en statue dans plusieurs endroits. Ils l'ont refait à New York récemment. Et alors le problème, c'est que maintenant, on sait que ce baiser volé est en fait une agression sexuelle. Quoi. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Mais l'image est tellement belle.
C'est ça, vive les belles images. Merci beaucoup. Merci André. Merci aux étudiants d'être venus.
Je veux bien récupérer mon petit livre.
Le petit livre, qui a le deuxième ouvrage ? Non. S'il vous plaît. On l'a pas eu là, ici.
J'ai un trou.
Il manque un livre.
1945. Ouais, ouais. Alors c'est hyper connu. Je l'ai dit rapidement. Parce qu'il y avait plus d'images, c'était plus. J'ai trouvé que c'était plus. L'autre, c'est plus délicat. Mais c'est moins iconographique. Mais pour chaque image, il y a un modèle, hein, c'est sûr.
Oui,
celle-là, je la connais.
Mais, comment dire, je crois que ça n'existe pas dans nos livres.
Ah oui,
une photo régionale.
Régionale.
Ça, c'est le titre. Et je trouve ça très intéressant. Ça a été remplacé par l'ordinage que vous avez montré.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que.
Voilà, ça ne veut pas dire la même chose du tout. Parce que ça, on retrouve la même image sur le site, par exemple, pour montrer que la partie. Sur des publicités, ça c'est une image de la mondialisation qui nous montre le multipocte.
Oui. Mais qui est tout aussi allégorique, hein, c'est-à-dire c'est un résumé avec trois personnages de quelque chose qui est supposé être la population.